Pistons. Donc
ça c'est voilà, une c'est... honte.
Mais bon voilà, donc voilà pour ce qui est des finales NBA, on reviendra évidemment dessus les semaines prochaines. En attendant, on va se quitter parce qu'il est déjà l'heure de se laisser avec Imaginaire et on vous souhaite à la semaine prochaine et à Maury à une prochaine
on
fois.
On se reverra l'année prochaine, voilà, je pense, je repasserai quand j'aurai l'occasion.
Et voilà, et bonne soirée.
J'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu. Je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas oublié, je m'en suis souvenu. C'était si surprenant, c'était tant incongru. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas dire d'où ça m'était venu.
L'équipe d'Imaginaire, Sébastien, Jean-Luc, Romald dans le studio, et puis on a un invité.
Et oui, on a Jean-Christophe Tandé qui est notre invité, qui est chroniqueur ciné, chroniqueur comics surtout et pop culture en général. Donc aujourd'hui, tu es invité pour la spéciale Alien et tu vas pouvoir nous parler un petit peu des comics et peut-être un petit peu de la série Alien Earth qui va venir bientôt.
Pourquoi on fait une spéciale Alien, Romu, à cause de la série qui arrive sur Disney+ ?
Alors oui, parce que effectivement, cette émission l'a préparée depuis 6 mois parce que ça va bientôt arriver et puis parce que je suis un grand fan d'Alien.
Moi, je vous parlerai un petit peu du jeu de rôle et puis Sébastien, des livres-jeux.
Plus particulièrement d'un livre-jeu Marine Coloniaux, le premier de la duologie Alien. Du deuxième, j'en parlerai au moment de la sortie, donc voilà.
Et puis on va s'écouter quelques BO des films Aliens tout au long de cette émission, pas que des films d'ailleurs. Et on commence tout de suite avec Jed Kurzel, c'était celle de...
Covenant.
Voilà, qui reprend pas mal les thèmes de Jerry Goldsmith quand même, mais réarrangé un petit peu différemment, c'est intéressant, moi j'aime bien celle-là. On se retrouve dans quelques minutes sur le 101.5, vous pouvez vous mettre sur le chat, commenter un petit peu... Les aliens que vous n'aimez pas, ce que vous aimez, etc. A tout de suite! laisse le suspense.
Ah, il y a du suspense. Hein, bah...
Il fait aussi chaud que dans le Nostromo, là, dans le studio de Radio G. Ou dans le Soulaco.
Alien, ça commence par un slogan. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Alors, le premier film sobrement intitulé Alien est un succès média dès sa sortie en juin 79. Pourtant, si l'on s'en tient au pitch du film, il n'y a pas de quoi fouetter un chat spatial. Dans un vaisseau rôde un monstre qui décime ses passagers les uns après les autres. Le scénariste Dan O'Bannon, à l'origine du projet, avait lui-même résumé son scénario au studio qu'il démarchait comme étant un « dans de la mer, dans l'espace ». Alors, comment expliquer un tel succès pour que 46 ans après sa sortie, quasiment jour pour jour d'ailleurs, Alien soit devenu une référence absolue de la SF? Eh ben, sans doute grâce à deux ingrédients bien particuliers. En premier lieu, le monstre lui-même, l'alien, l'étranger étrange, puisque en anglais, alien est à la fois un nom et un adjectif, et c'était voulu par O'Bannon. Ce monstre est avant tout une représentation née de l'imaginaire morbide du plasticien et designer Hans Roedi Giger, et pas Giger, Giger. Il était suisse. Giger était connu pour son style biomécanique unique, un travail traversé de pulsions primaires, en particulier la sexualité et la mort, donc Eros et Thanatos du grand classique. O'Bannon avait rencontré Giger quelques années plus tôt à Paris sur le projet d'adaptation de Dune d'Alejandro Jodorowsky. Giger travaillait en particulier sur le design des fauteuils des Harkonnen, les méchants de l'histoire. Le projet Dune n'a pas abouti, mais les chaises existent bel et bien. Et si l'on se rend dans un des bars Giger de Chur ou de Gruyère en Suisse, je ne sais pas si tu es allé, Seb, je crois que oui.
J'irai pour mes vacances.
Et
excellent.
Tu prendras des photos si tu as le droit.
On ira ensemble.
Absolument. Je crois qu'on en parlera. Et en tout cas, si on s'y rend dans ces bars, et ben on peut s'asseoir sur une des répliques des chaises. Ou des répliques des chaises, pardon. Donc, l'alien de Giger est sombre, sans yeux, sujet à la métamorphose, son crâne est phallique et donc érotique. Son corps lisse, sa gueule est dotée d'une redoutable double mâchoire et quand on le blesse, un sang acide jaillit de son corps pour vous brûler. L'alien, ou plus exactement le xénomorphe XX121, est avant tout une créature devenue un mythe cinématographique. De son aveu même, Dan O'Bannon a volé Alien à tout le monde. D'abord, dans les nouvelles et les films de science-fiction, dont son propre film, O'Bannon, Dark Star, réalisé avec un certain John Carpenter, mais peut-être aussi en s'inspirant de récits beaucoup plus anciens. L'alien est un condensé, c'est le monstre terrible des légendes. Il est à la fois une sorte de dragon noir lové au fond de sa caverne, le croque-mitaine caché sous le lit des enfants, et l'araignée qui tente de se glisser dans votre bouche. Il est le Minotaure qui rôde dans le labyrinthe des coursives du Nostromo, le vaisseau minier qu'il a involontairement recueilli en son sein. Un vaisseau qui ressemble furieusement à un manoir humide et abandonné de films d'horreur. Le deuxième ingrédient fait contrepoint à l'alien, c'est son héroïne, Ripley. Elle est incarnée par une Sigourney Weaver, encore inconnue à l'époque, qui était que figurante sur un Woody Allen. Ripley est une femme atypique, surtout au regard de l'époque. Belle, mais pas au sens classique. Ce n'est pas une femme fatale, une blonde plantureuse ou une créature évanescente. Non, Ripley, c'est d'abord cette silhouette anguleuse d'1m80. Elle porte sur le film son regard d'acier, fait jouer les tendons de sa mâchoire carrée. Et bien que féminine, elle présente des caractéristiques androgynes, comme en miroir de l'alien. Elle est un des vrais premiers rôles féminins du cinéma d'Hollywood. C'est un personnage fort et on le doit sans doute en partie à la méthode des co-scénaristes O'Bannon et Ronald Shusett. Oui, c'est bien Shusett qu'on dit. Qui ont écrit leur script sans déterminer le sexe de leur personnage. Ripley aurait donc pu être un homme. Et fort heureusement, ce ne fut pas le cas grâce au choix du réalisateur Ridley Scott. Autre choix heureux, dans les premières versions du scénario, une romance avait été prévue entre Ripley et le capitaine Dallas, cette idée fut abandonnée, et l'héroïne d'Alien a pu donc se développer en toute indépendance des personnages masculins. Pas mal pour l'époque, puisque je vous rappelle qu'on est en 1979. Ripley est à contre-courant des canons de l'époque, et à l'opposé de l'autre seule femme du vaisseau, l'officier de navigation Lambert. Cette dernière cède rapidement à la panique et suggère la fuite quand Ripley reste stoïque et choisit d'affronter la situation. Ripley est une femme forte, même si ce terme est un petit peu désuet, mais aussi un officier. Lorsque le capitaine Dallas disparaît définitivement, happé dans un conduit d'aération par le xénomorphe, Ripley prend naturellement le commandement du vaisseau sans être contesté par les survivants. C'est dans cette scène précisément que Ripley ne laisse pas par cœur un homme lui couper la parole. Celui-ci finit d'ailleurs par un piteux « on t'écoute ». Ripley n'est pas sympathique, elle parle sèchement à son équipage, elle fait preuve d'autoritarisme, elle est prête à sacrifier l'officier en second contaminé, mais c'est le prix à payer pour sa redoutable efficacité. Ripley est un jalon et un repère féministe dans l'histoire d'Hollywood. À l'alien et Ripley, version cauchemardesque et infiniment plus complexe de La Belle et la Bête, on peut aussi ajouter un troisième ingrédient qui traverse la saga Alien. Il s'agit de la Weyland Yutani, la compagnie qui a affrété le Nostromo et pour laquelle travaille l'équipage. Si l'alien est implacable et destructeur, il reste un animal qui agit dans une logique de survie, puisque mu par une volonté de reproduction. La compagnie Weyland Yutani, elle, est un prédateur purement économique. Elle souhaite exploiter les potentialités offertes par l'alien, militaire ou autre, au mépris de toute autre considération. En cela, la compagnie, avec sa logique capitaliste extrême, est la véritable antagoniste d'Alien. Elle s'incarne dans le faussement sympathique cadre exécutif Carter Burke, dans l'IA du vaisseau aux directives cachées appelées Maman, Mover en anglais, et surtout par les androïdes qui sont souvent ses agents les plus zélés. Cette approche attribue une connotation très politique à la saga, tout du moins concernant les quatre premiers films et le tour dernier Alien Romulus, sorti en 2024. On va dire que Prometheus et Alien Covenant sont un petit peu à part. Les protagonistes humains n'y sont pas des héros, mais des prolétaires victimes d'un capitalisme implacable qui n'existe pas à sacrifier ses pions. Ce sont des transporteurs, donc littéralement des routiers de l'espace dans Alien le 8e passager, des soldats, chars à canon dans Aliens de James Cameron, des prisonniers exilés dans Alien 3, des pirateurs la loi dans Alien Résurrection et de jeunes gens dont les parents sont morts du travail de la mine dans Alien Romulus. Tous victimes d'un système d'exploitation auquel ils tentent d'échapper, le plus souvent en vain. Ceci explique pourquoi la saga Alien est actuellement constituée de 7 films, sans compter les crossovers avec Predator, agrémentés d'une poignée de romans, d'une longue série de comics, et on va pouvoir en parler, débutant en 88 ou 87 chez Dark Horse Comics, sans compter le jeu de rôle Alien dont la version évoluée vient d'être lancée en tant que nouveau projet sur Kickstarter. Et puis enfin, la série Alien Earth qui sortira cet été sur la plateforme Disney+. Alors on le comprend donc, si dans l'espace on nous entend pas crier, la saga Alien, elle résonne de modernité et encore sans doute pas mal de choses à nous dire. She was struck down, it was her.
Les Non Farm dans l'imaginaire sur Radio G, c'était le choix de Romuald.
Ouais, la petite reprise de Michael Jackson.
Oui, ça, ouais.
Meuf criminelle. Eh ben, on est donc avec Jean-Christophe Tandé, alias The Kid Comics. Jean-Christophe, donc spécialiste de comics, on va pouvoir parler des comics aliens. Rappelle-nous sur quels réseaux sociaux on peut te trouver.
Bah, merci de l'invitation déjà, merci à vous. Et puis, bah, du coup, moi, on retrouve le Kid Comics signé et écrit sur Instagram. Voilà, sur Instagram, vous me trouvez, puis sur les autres réseaux, mais principalement sur Instagram.
Principalement sur Instagram. Ouais. T'avais fait partie aussi d'un collectif avant
qui... Oui, alors j'ai fait partie du site lescomics.fr de 2016 à 2023, pendant 7 ans, où je chroniquais des sorties de BD américaines chez les éditeurs français. Voilà.
D'accord. Alors, t'as ramené une énorme pile de BD. Je sais pas comment t'as fait, avec un diable, sans doute. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de BD aliens. Est-ce que tu peux nous expliquer, rapidement, comment ça s'organise, ces BD aliens, et quand est-ce que ça a commencé?
Là, j'en ai ramené beaucoup, mais il y en a énormément. Vous pourrez les trouver dans des librairies BD. Il y en a beaucoup, que ce soit des anciens éditeurs ou les nouveaux éditeurs. Donc en fait, c'est une très longue histoire, parce qu'on peut dire que même le premier comic book Alien est sorti très peu de temps après le film. Chez Heavy Metal, c'était l'adaptation du premier film, adapté par l'écriture à Archie Goldwyn et dessiné par Walter Simonson, donc un grand dessinateur de comics qui a dessiné beaucoup sur Thor.
Donc Marvel. Avant Aliens.
Au moment de la sortie du premier film, ça a déjà été exploité chez Heavy Metal. Ils avaient sorti une première adaptation, mais après principalement c'est sorti Dark Horse Comics aux États-Unis a eu les droits à partir de 1988 et a pu exploiter de 1988. Jusqu'au rachat de la 20th Century Fox par Disney, jusqu'en 2019, l'univers alien dans les comic books. Donc, pléthore de comics sont sortis concernant que les xénomorphes ou alors des crossovers aussi. Et donc il y a eu foison d'écrits sur nos créatures perdues, soit dans des vaisseaux, soit dans des planètes diverses de l'univers alien. Donc voilà, il y a eu moult comic book, et donc en France ça a été édité par plusieurs éditeurs, ça a été un peu plus anarchique, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs éditeurs, on peut compter sur donc Zenda, qui est un éditeur qui n'existe plus forcément, Dark Horse France, qui a eu pendant quelques temps la possibilité d'éditer en France, et puis après il y a eu aussi quelques crossovers chez Semic, notamment le crossover avec Batman qui est sorti chez Semic.
C'est pas très canonique, et on en reparlera de ce que c'est canonique.
Voilà, donc là, il y a eu beaucoup de crossovers. Il y a eu aussi chez l'éditeur Le Téméraire, Vestron, et précédemment Vestron, donc ça a changé, c'était avant Weta, donc c'était vraiment que c'était assez anarchique. Donc jusqu'au rachat de la Fox par Disney, et puis voilà.
Alors c'était en quelle année ça? C'était assez récent?
Alors c'était assez récent, c'est en 2019. Et puis du coup, l'achat de la Fox par Disney, qui possédait déjà Marvel, donc Marvel Comics, qui a pris la suite pour éditer les comics Marvel. Et donc les éditeurs Marvel en France sont édités par Panini Comics. Donc depuis, c'est édité par Panini Comics.
D'accord.
Les mêmes éditeurs que Marvel.
Donc alors, dans tout cet univers, justement, est-ce qu'on appelle le canonique ou pas le canonique? Alors, le canonique, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est l'histoire officielle, on va dire. Donc, on imagine que les films, c'est l'histoire officielle. Est-ce que les BD s'inscrivent là-dedans? A priori, les BD ont surtout commencé après Aliens, dont James Cameron, le deuxième film, dans les années 80, fin 80. Et c'est là que déjà que ça commence à pas aller, quoi.
Oui, effectivement, parce que du coup... À partir de Aliens, après Aliens, les auteurs et les dessinateurs pensent avoir une grande liberté de production et d'idées, assez foisonnante. Hein. Du coup, après Aliens, les possibilités sont immenses, surtout quand on voit la fin du second opus. Donc effectivement, il y a eu des comic books où l'aventure se perpétue avec...
Les mêmes personnages.
Voilà.
Pas les survivants.
La même petite fille, Newt, qui survit dans Alien 2. Et le caporal X, campé par Michael Biehn, qui était un des acteurs préférés de James Cameron. Mmh. Et du coup, on les retrouve dans des aventures où ils survivent tous les deux. Ripley n'apparaît pas forcément tout de suite, mais les deux survivants se retrouvent, entre des Marines coloniaux qui veulent exploiter la créature pour s'en servir d'arme biologique. Et puis, les xénomorphes qui, vont continuer à tuer et à proliférer. Donc voilà, il y a eu donc toute cette production-là qui a été d'un coup squeezé par le fait que Alien 3, sorti en 92, a décidé autrement du destin de la jeune Newt et du Caporal X. Voilà. Donc, ouais. À l'issue de ça, les noms des personnages qui continuent à sortir dans les comics ont été changés. C'est-à-dire que Newt ne s'appelait plus Newt, elle s'appelait Billy, si je m'abuse. Et X était Wilkes, voilà. Donc il y a eu des changements.
D'accord, c'est juste en changeant de nom qu'ils vont réussir à changer de personnage.
Ils ont réussi à rééditer de nouveau ce qu'ils avaient sorti auparavant. Mais ça restait malgré tout.
Alors c'est vrai que Alien 3 nous a un peu tous surpris à l'époque parce que il cassait un certain potentiel en fait en disant les survivants d'Alien 2, oubliez-les, hein, sauf Ripley, et puis on va passer à autre chose. Et c'est vrai que c'était pas forcément attendu, ni qu'un film sorte, ni qu'il trahisse l'univers qui était déjà développé.
Ouais, tout en sachant qu'en plus, ce Alien 3 a connu moult moutures de scénaristiques. Hein. Plusieurs scénaristes ont été remerciés, et alors qu'ils avaient déjà bien avancé dans leurs travaux. Donc, ce qui fait que oui, le Alien 3 aurait pu se passer autrement. Et... toujours avec des personnages rescapés.
Ouais, parce que le William Gibson, on lui avait proposé, et en fait. Je pense
l'écrivain de science-fiction.
Ouais, le neuromancien, peut-être un des papes du cyberpunk en fait, hein, dans les années 80. Et en fait, William Gibson était vraiment fan d'Alien et lui est pas trop parti dans un truc barré. Il a fait un truc assez dans la veine d'Aliens quoi. Et c'est vraiment ça, son scénario commence vraiment plus là où le 2 s'arrête. Hein. Avec le personnage de l'androïde, le synthé joué par Lance Henriksen,
yep.
Voilà, et qu'on retrouve coupé en deux et tout, mais qui est toujours vaillant. Et donc non, ça a pas plu, puis ça a été zappé. Et donc après ce scénario de William Gibson, il traînait déjà sur la toile. Et puis là, en fait, ces dernières années, on en a fait une. L'adaptation en BD et en roman aussi, qui est sorti assez récemment chez Bragelonne. D'accord. Donc, si vous voulez partir dans une autre direction et renier le Fincher.
Alors, justement, avec l'arrivée de Disney, est-ce que Disney va remettre de l'ordre dans tout ce qui est canonique ?
Alors, pour l'instant, c'est assez abordable parce que, effectivement, il y a très peu de récits sortis depuis l'arrivée de Marvel et de Disney. Au sein des comics. Donc pour l'instant, c'est pas encore trop le Capharnaüm comme précédemment où il y a eu plus de 30 ans d'exploitation. Là, c'est encore abordable. Pour l'instant, c'est canonique, mais jusqu'à ce qu'éventuellement quelque chose peut éventuellement changer la donne. C'est le cas dans les derniers comics Marvel où avec des séries, on peut changer quelques points, notamment dans la série Andor, où il y a un petit point qui peut changer.
Ouais. Et justement, ils ont été malins, parce qu'en fait, les comics qui sont sortis l'année dernière, c'est la série What If, voilà. Qui porte bien son nom, c'est Et si, on sort de la ligne canonique, on se dit, on va faire une histoire, et si c'était passé ceci à la place de cela, c'est...
En plus, les what if, c'est purement des exploitations chez Marvel qui a l'habitude de changer un fait sur un personnage ou un super-héros. Donc,
on sent la culture Marvel là.
Qui s'incorpore dans les Aliens. Donc là, ils ont sorti un what if et Aliens. Où en fait, le cadre de la Weyland-Yutani, Carter Burke.
Dans Aliens. Dans Aliens, le méchant dans Aliens, en fait.
Joué par Paul Reiser.
Oui.
Survit à Alien, et que serait-il arrivé s'il avait survécu à Alien 2, Aliens, le retour. Voilà, donc ça, il a écrit lui-même, d'ailleurs avec son fils, le comic book Aliens.
Excellent.
Aliens. Oui, parce que Paul Reiser est plus scénariste qu'acteur depuis longtemps. Paul Reiser, alors si vous ne voyez pas qu'il était jeune, mais vous le connaissez, il était dans Stranger Things aussi, il faisait le docteur Owen, le méchant. Et c'est un visage connu des seconds rôles, et c'est surtout un scénariste.
L'adjoint de Axel Follet dans Le Flic de Beverly Hills aussi, quand il est à Détroit.
Oui.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, je m'en rappelle.
Donc voilà, donc du coup, en fait, ce comic book commence vraiment, les premières pages, on se retrouve vraiment au moment du Aliens Le Retour, où il fait ses crasses, il essaie de piéger... les Marines, c'est Ripley pour réussir à avoir un œuf et un xénomorphe pour la Weyland-Yutani pour laquelle il travaille. Et là où il aurait dû mourir, et dans ces quelques pages, on voit qu'il survit. Et donc il y a toute la suite où ça se passe une trentaine d'années après, où il a une fille qu'il voit très peu. Et du coup, il a été un peu exilé par la Wayland Yutani qui sur une planète isolée. Et il veut essayer de rattraper le coup et de nouveau essayer de trouver un œuf et un xénomorphe pour pouvoir, on pense au départ, se racheter auprès de la Wayland Yutani, mais ça cache en fait quelque chose de plus personnel. Et voilà, donc en fait, il garde un côté assez détestable, mais on a un petit côté qu'on n'avait pas de lui dans le film Aliens qui au final a certains côtés attachants. Voilà. Donc au final, on peut se dire au final que avec cet écrit-là, c'est que même les anciens comic books sous l'ancienne licence sont un peu au final des what-ifs. Voilà.
Et l'année dernière, il y a eu un gros volume chez Panini, je crois, de 800 pages.
Alors ça, justement, c'est la réexploitation de tout ce qui était sorti chez
c'est l'omnibus.
C'est Dark Horse.
C'est des omnibus. Ouais. Donc ça, c'est sorti chez Panini. Ouais. Il y a, il
pas me semble,
4 omnibus maintenant.
Ouais, il est gros, il coûte 80 balles. Hein.
Ça, oui, mais tu passes du temps à le lire, quoi.
Ouais, ça repercute, donc ça ressort tout ce qu'on a parlé.
On reprend tous les comics dès le début.
De l'adaptation du film de 79 jusqu'à bah, les comic books un peu plus récents de chez Dark Horse.
Alors justement, là, pour quelqu'un qui connaîtrait pas les comics un petit peu comme moi, par lequel il faudrait commencer?
Typiquement, si vous connaissez les films, là, vous avez au total 5 tomes qui sont sortis chez Panini Comics. 3 tomes de Philip Kennedy Johnson, donc c'est un auteur américain qui a beaucoup écrit sur Superman dernièrement et sur l'incroyable Hulk. Voilà, c'est en 3 tomes. Et puis 2 tomes qui ont suivi. Donc ils reprennent par contre, alors c'est ça le piège, c'est souvent c'est que dès qu'il y a un arc qui finit, on reprend au tome 1. Donc voilà, donc là c'est le second arc qui est écrit par Declan Shalvey. Donc ça c'est vraiment des comic books qui sont situés vraiment après le deuxième film. Voilà. Donc on a tout ce qu'on retrouve de l'univers alien, les Marines coloniaux, la Wayland Yutani, et même un petit Bishop qui traîne de derrière les fagots. Voilà.
Ah oui, oui, effectivement, on dirait Lance Erickson, ouais. Effectivement. Ouais, on les trouve encore, ces libraires?
Ah oui, c'est les derniers. Chez les libraires spécialisés.
Donc c'est chez Panini Comics?
Voilà, chez Panini Comics. Vous avez des très bons libraires chez nous sur Angers.
Et au niveau du dessin, qui tu préfères? Est-ce que...
Alors,
question piège.
La question. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas beaucoup l'espagnol. Alors c'est Salvador Larroca qui dessine la plupart des dessins sur le premier run, donc le run de Philip Kennedy Johnson. Il y a beaucoup qui n'aiment pas trop Salvador Larroca parce qu'il est assez photographique. Donc vous avez bien reconnu Bishop, ouais, parce qu'il l'a très bien fait. On croirait une photo du film.
Okay.
Et il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce style-là parce que c'est trop
réaliste.
Trop réaliste.
Oui, réaliste.
Et vous pourrez. Alors ça c'est le héros du film, du film, voilà. Et le visage est très ressemblant à quelqu'un. On pourrait se dire tiens, on dirait quelqu'un. Mais oui, le dessinateur s'est pas embêté. Il s'est dessiné lui-même.
C'est le héros.
C'est facile.
Voilà.
J'aurais fait pareil à sa place.
Romuald.
Bon, mais moi du coup j'en avais ramené quelques-uns aussi. Alors là, j'ai des BD Aliens très stylées parce qu'il y en a une. Elle est dessinée par Corben. Et on reconnaît tout de suite son dessin, en fait, son style. C'était Aliens Alchemy chez Tot Édition. Ça, je sais pas. Mais en fait, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que j'étais assez riche. J'ai essayé de retrouver les références de ces BD qui cotent un peu, hein, peut-être. Elles sont pas introuvables, mais bon.
C'est les années 80.
Plus cher que... Oh, ça doit être vers 80, un peu après 90. Ça, ouais. Une BD où la religion est très importante. Ça, c'est un truc qu'on va retrouver dans le jeu de rôle. C'est que y a des humains en fait qui vouent un culte à tout ce qui est alien. Ouais. Et puis il y a un peu aussi question de religion dans Aliens Absolution, dessiné par Mike Mignola, avec d'ailleurs au scénario Dave Gibbons, qui était là, qui avait travaillé avec
auteur et dessinateur de Watchmen. Ouais,
voilà,
Alan Moore.
Aussi là on retrouve complètement le dessin de Mignola. Alors après c'est pas des histoires d'aliens très originales, hein. Souvent c'est deux personnages qui se retrouvent sur une planète avec dans leur soute, il y avait un truc, on leur avait pas dit ce que c'était et tout. Mais voilà, bon, si vous aimez ces dessinateurs là aussi, il y a un peu leur propre interprétation.
C'est vrai qu'on a eu des grands noms noms du comic book autour de la licence.
Mais pas grand monde qui, on va dire, qui apporte beaucoup, je dirais, un peu à la mythologie alien. Quand même, dans Alien 3, on parlait du scénario refusé de William Gibson. Je crois, enfin, peut-être, je vais peut-être dire une bêtise, vous pouvez me reprendre sur le chat aussi si vous nous écoutez. Je crois que c'est lui qui fait apparaître l'UPP. Parce que là, quand tu regardes un peu les films, t'as l'impression qu'il n'y a que Wayland Yutani et c'est un peu, on a un peuple sur Terre qui colonise colonise tout l'espace. Là, chez William Gibson, en fait, la Terre est scindée en plusieurs continents qui se vouent
et l'espace
peut-être plus
aussi,
une guerre sur Terre, mais au moins elle se voue une guerre dans l'espace. Mmh. Hein. Et donc une guerre de colonisation. Et là, donc, on découvre l'union
Des peuples populaires.
Voilà, c'est ça.
C'est,
un peu les cocos.
On est un petit,
ouais,
c'est un petit peu resté. Ils sont restés sur l'époque. Hein, c'était dans l'air du temps des années 80 avec la guerre froide et c'est resté dans l'espace.
C'est peut-être pour ça
que la technologie est restée. On en parlera peut-être aussi tout à l'heure.
Ouais, on en parlera dans quelques minutes dans le jeu de rôle aussi. Puis avec Sébastien. Ouais, Jean-Luc.
J'ai une question en fait pour savoir s'il existait des mangas. Alien.
Ah.
Voilà, c'est vrai que.
Franchement, je ne crois pas. Je n'ai pas connaissance
non, pas
de ça.
Tout, non,
et
ça, ouais.
Ça me revient pas à l'esprit.
Non, ok.
Non, mis à part les romans, les jeux vidéo.
Oui.
Les comic books, j'ai pas souvenir pas d'avoir vu.
Ah, d'accord.
Encore. Et qui sait, peut-être un jour.
Plus tard,
voilà.
Ouais.
On s'écoute le choix musical de Jean-Christophe. C'est Sting.
Oui.
An Englishman in New York.
My dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
laisse un peu Brandon Marsalis s'exprimer. Ah,
carrément, c'est super ça. D'avoir laissé le saxo jusqu'à la fin. Sting qui magnifique. Sera en concert lors des Nuits de l'Erdre très bientôt, le 3 loin. Juillet, et j'aurai la chance d'y être.
C'est pas loin dans le temps, et c'est pas loin c'est géographiquement. Pas loin dans le temps,
mais c'est complet, hélas.
Et il y a un lien entre cette chanson et Alien, et la saga Alien au cinéma, d'après vous?
Ah, je sais pas.
Alors moi, j'ai juste choisi parce que il parle de Legal Alien dans ses paroles, mais ouais. A priori, il y aurait un autre.
Qui a réalisé ce clip, hein, le clip d'Englishman in New York en 1988?
Ah, c'est, alors j'ai pas
David
du tout
Fincher. Pour.
C'est vrai, celui qui a fait donc Alien 3.
Deux ans plus tard.
Ouais. Mmh. Ah ouais. C'est d'ailleurs le
c'était
seul.
C'était son premier long métrage. Ouais. Hein. Et c'est des clips avant.
C'est le seul réalisateur américain de toute la saga Alien. C'est absolument le seul.
Mmh. Ah oui.
Ils sont tous soit anglais, soit canadiens.
Ah.
Soit français.
Oui,
Jean-Pierre Jeunet pour Alien Resurrection.
Ou le dernier d'origine sud-américaine.
Non, avec uruguayen, oui, effectivement. Fede Alvarez.
Bon, Sébastien, t'as réussi à nous trouver des livres-jeux Alien.
Oui, oui, ça existe. C'est par un très grand fan, en fait, de la franchise Alien, notamment des premiers films, plus particulièrement d'Alien, le retour, dont on en a déjà parlé avec
donc Romu, le 2.
Donc Aliens.
Ou Aliens. Voilà,
Aliens,
comme on dit maintenant.
De James Cameron. En fait, il en a fait deux. Alien, donc Marine Colonial, c'est le premier dont je vais vous parler rapidement. Et il en a fait un deuxième. Donc le premier est sorti en 2009 et le deuxième en 2011. Et là, il fait convoquer autant les aliens que les prédateurs. Les prédateurs. Ah. Alors là, pour Marine Colonial, donc on trouve la VH sur literaction.fr. Donc c'est gratuit.
Mais donc, ce ne sont que des fichiers numériques, il n'y a pas d'édition physique.
Alors, on peut l'avoir en édition physique chez l'élu.
Ah oui, oui, d'accord, voilà, on peut le faire imprimer chez l'élu.
Ça ne sera pas en français, alors
En fait, c'est un Suisse qui est romancier aujourd'hui, mais de livres purs et durs, et qui a commencé par faire de la littérature interactive, et après, il en est venu à écrire des romans, voilà. Et donc, dans Marine Colonial, alors, d'entrée, ce que j'aime, c'est que c'est aussi inspiré du jeu de rôle romain. On a à choisir une classe parmi six classes de personnages. On a le mitrailleur, l'artilleur, le fantassin, le comtech, le médecin ou l'éclaireur. Et ce qui est vraiment bien, c'est que à partir de là, on aura des choix supplémentaires qu'on n'aura pas si on n'est pas ce personnage à qui c'est destiné les choix en question.
Pour aller à tel paragraphe. Donc tu veux dire que ça débloque des paragraphes, en fait.
Voilà, ça débloque des paragraphes. Et j'aurais voulu savoir, Romuald, toi qui connais bien le jeu de rôle, si en étant le comtech, le médecin, enfin des profils de marine qui ne sont pas vraiment des combattants purs, qu'est-ce que ça apporte en plus dans le jeu de rôle?
Bah en fait c'est comme dans tout jeu de rôle effectivement, parce que c'est très très proche d'un jeu de rôle, c'est que bah ça te donne des compétences que les autres ne peuvent pas avoir. Alors c'est vrai qu'un jeu de rôle, c'est un jeu d'équipe.
En fait, t'as plus de chances d'arriver à certaines actions parce que voilà. T'as plus de dés en fait dans certains attributs, voilà. Et certaines compétences.
Donc par exemple le comtech, il va essayer d'ouvrir des portes ou essayer de débloquer le lien du vaisseau, des choses comme ça.
Mais tout le monde peut faire un test quand même pour ouvrir une porte. Oui. Mais peut-être que le mitrailleur n'a qu'un dé alors que l'informaticien en a 5 de base.
Mais le jeu de rôle est très basé sur la complémentarité des joueurs, effectivement.
Donc ouais, d'ailleurs, c'est peut-être le moment d'en parler. Moi, ce qui m'a surpris, après, je fais pas du jeu de rôle depuis que je suis tout petit, c'est que dans Alien, le jeu de rôle, on peut trahir ses compagnons. Moi, tous les jeux de rôle que j'avais fait jusque-là, c'était des coopérations.
On avait un but. C'est même le concept, en fait.
Et le jeu encourage parce que, en douce, le MJ vous donne tous des petites cartes et vous avez des petits secrets sur vos cartes et vous retournez votre carte et en fait, ça peut dire, par exemple, vous êtes un synthé, cachez-le aux autres et objectif, faire échouer la mission.
Ou la faire réussir. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a plein de combinaisons, mais c'est très proche des films où il y a toujours le traître, le synthétique. On ne sait pas s'il est du bon côté, du mauvais côté. Enfin, ça reprend. D'ailleurs, ça s'appelle le mode cinématographique dans le jeu de rôle.
Ouais. Et donc, moi, ça m'avait un petit peu. Avec j'avais trouvé ça cool, mais
sympa, ça.
Ouais. Ça change complètement
de personnages
la dynamique
que de joueurs, parce que les personnages meurent en général pendant la partie, et c'est assez stressant.
Donc voilà, t'espères que dans le vaisseau dans lequel tu viens d'arriver, il reste quand même quelques survivants que tu vas pouvoir incarner si ton personnage décède.
Ouais, parce que sachant que là, on va être dans Marine Colonial, donc la VH, dans une base sur la planète Kyros. En fait, le médecin-chef Sven Williams nous demande de venir donc pour superviser des excavations d'un nouveau filon de minerai par les colons, parce qu'ils ont peur aussi dans les cavernes de rencontrer de méchantes créatures.
Mmh.
Et en fait, ça va être un traquenard. Et tu as raison, Romain. C'est qu'en étant le comtech ou le médecin, ils ont moins, on va dire, en précision, moins en maîtrise de combat. Et c'est vrai qu'on n'adopte pas la même tactique face aux aliens si on a à les combattre. Et j'en viens donc à parler donc du fait qu'on est aussi en équipe. On fait partie d'une équipe de 13 marines, dont nous, en fait, nous-mêmes, on est 13 en tout. Et il y a un X. En fait, là, c'est un sergent fantassin. Donc, c'est un petit hommage à ce personnage. Il y a aussi Varowski, qui a un autre hommage à un personnage secondaire d'Alien, l'huitième passager. Et j'aurais une question, donc, pour toi, Romain, qui aime bien le film Alien, le retour. Qu'est-ce qui te frappe dans la mise en scène par James Cameron des marines coloniaux dans ce film?
Voilà, j'aurais du mal à répondre.
Romuald, qu'est-ce qui te plaît, donc,
Jean-Christophe?
Jean-Christophe,
ouais. Leur côté va-t-en-guerre qui au final se font un peu piéger comme les soldats mettons américains dans les conflits extérieurs des années qui ont précédé le film, on va dire, oui. Au Vietnam.
Ils ont un côté très Vietnam avec la façon dont ils sont tous toujours dépareillés, ils sont pas très proches de la hiérarchie, mais un peu comme dans Predator d'ailleurs.
Oui, dans le premier.
Ils sont très forts, mais ils tombent sur plus fort qu'eux. C'est le concept aussi. Ouais.
Et puis moi, ce que j'aime, c'est aussi le côté un peu famille, avec Mekai, Parapon. Et puis tous ces personnages, je les trouve par moments, c'est un peu des archétypes. Mmh. Et ils ont tous un physique, une gueule et de la personnalité. Et c'est ce qu'on retrouve dans la VH. Tous les marines, en fait, ils ont vraiment une identité bien à eux. Et il y en a même un, et ça m'a fait très rire, en fait. Avant même de rencontrer des aliens, il voit un peu la base dévastée. Il a vraiment les chocottes. Un point tel qui va se tirer et on va devoir essayer de le retrouver. Voilà. Bon, ça m'a fait rire parce que vraiment il pète juste les câbles et tout. Bah le diable est ici.
Ah mais c'est peut-être le côté religion qui reprend le dessus là.
Ah ça.
c'est ça.
Oui. Et en même temps donc ce que j'aime c'est vraiment les scènes aussi qui sont très frappantes, choc. À un moment donné on est attaqué par un survivant à la hache parce qu'il est dans un état de stress maximal. Et je voulais savoir pour toi Jean-Christophe dans les films, pour toi, les scènes, vraiment les scènes les plus fortes, qu'est-ce que toi tu retiens?
Ah, c'est la claustrophobie. La claustrophobie, être coincé et avoir une créature, on ne sait pas trop ce que c'est, et puis être coincé dans un dédale de tuyaux et obscur, là, c'est très marquant.
Le truc qui est génial, c'est qu'ils ont le blip, ils arrivent quand même à détecter des présences.
Ouais, dans Alien,
bon, ça va.
Et puis horizontal.
Vraiment, en fait, il y a plein de blips qui arrivent, et moi, ça m'a vachement marqué cette scène. Il y a tous les blips arrivent, et pourtant, ils voient rien en face d'eux.
ils restent fixés sur ce qu'ils ont en face d'eux, mais ils regardent pas en dessous et ou au-dessus. Donc, c'est vrai que c'était très stressant.
Ouais, c'est une scène iconique.
Et tu parlais du stress, Sébastien. Le jeu de rôle aussi a quand même bien développé le stress. En fait, il y a des règles de stress dans ce jeu.
C'est central même.
Et qui est quelque chose qu'il faut vraiment gérer parce que c'est fait de façon à ce que ça soit vraiment exponentiel. Si ça commence à merder, ça part en couille et on contamine en fait tous les autres joueurs. Et donc là, ça peut partir vraiment complètement en sucette. On peut finir par se tirer dessus et tout. Donc,
parce que là, dans le livre-jeu, on a des tests de volonté.
On a en fait
5 aptitudes, dont la volonté. Et tu as raison, Jean-Christophe, sur le côté claustro, parce qu'à un moment donné, on est un peu bloqué, on doit aller dans certaines directions. C'est comme si les aliens... Ils ont une forme d'intelligence. Ils nous attirent en fait un peu dans leur guet-apens. Et c'est le cas un peu dans les premiers affrontements. Au début, moi, j'avais des facehuggers qui sautaient, les petites araignées. Et bon, c'est facile à buter. Sauf qu'à un moment donné, on va dans une salle où, comme par hasard, il y a des aliens, mais qui sont beaucoup plus coriaces. Et là, c'est vrai que l'auteur, il nous fait bien comprendre que ça va pas être une partie de plaisir. Parce que dès qu'on est en combat au corps à corps, soit ils nous pètent les boulons avec leurs tentacules, ou alors pire, leur jet d'acide. Et comme ils sont très agiles, ils ont plus de chances de nous toucher. Et comme on ne doit pas aussi manquer de munitions, le stress, il monte assez vite. Et pour moi, vraiment, l'auteur, il a réussi à apporter le meilleur du jeu de rôle Alien en livre-jeu, mais de façon simplifiée. On a vraiment des mécanismes ludiques simples et efficaces. On aura aussi des androïdes, Rotor, le médecin-chef, un cinglé, un peu comme on voit dans Alien 2. Le personnage, de Welland, qui veut rapporter des œufs.
Burke, qui est joué par Paul Reiser.
Et en plus, dans les affrontements, pour finir là, chaque monstre alien, il y en a différentes sortes, eh bien, il a des techniques aussi d'attaque différentes. Donc, ça permet un peu de scénariser un peu la chose. Et je vous invite vraiment à dévorer ce Marine Colonial, 300 sections. Bon, je l'ai converti en PDF. Et puis, donc, l'auteur Kevin Tondin, bah, je le remercie parce qu'on sent son amour vraiment d'Alien qui transpire dans ce livre-jeu, bah, comme Jean-Christophe, donc, notre invité du soir.
Et ben, bah, ça donne vachement envie, sur oui, le jeu vrai, de rôle, justement, il y a, qui est très bien aussi le jeu de rôle, on l'a aussi testé avec Imaginaire en initiation avec, moi j'ai fait avec des enfants qui ont adoré.
Mal.
Ah non, et c'était très, très bien. Non, c'est super, il est super le mec. Et ils vont ressortir une nouvelle version justement qui, ouais, qui a été lancée à Kickstarter. Donc c'est un jeu de rôle suédois.
Je sais pas. Tout à fait, c'est Free League, hein, qui utilise toujours leur système de jeu, le Year Zero System, et qui décline en fait. Depuis, ils ont fait Blade Runner avec un peu les mêmes règles.
Chouette, hein.
Je pense que ils travaillent avec Genuine Entertainment. Joe Lefavy, c'est un Américain. Son taf, en fait, c'est d'aller chercher des licences et ensuite de les reproposer à des gens qui vont en faire des jeux, quoi. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire des jeux sur des licences hyper connues, traduit en France par Arcane Asylum. Et donc là, il y a eu donc la boîte livre de base avec un premier scénario, Hadley's Hope, yes, qui est c'est la préquelle d'Aliens, en fait, hein. C'est qu'est-ce qui est arrivé sur la colonie avant que la bande des Marines débarque.
Juste avant que la bande des Marines débarque.
Ouais. Il y a eu trois scénarios. Alors après, c'est le scénariste Andrew Gasca a développé des trucs. Et lui, là, ce que j'aime bien, c'est qu'il agrège pas mal. On retrouve aussi les ingénieurs, qui est un truc qu'on voit peut-être pas tant que ça, finalement. Enfin, on l'a vu dans les deux.
Ce sont les extraterrestres qu'on voit un petit peu aussi dans Alien le premier.
Et puis eux qui sont peut-être censés avoir créé les humains et les aliens aussi, un peu, cette espèce de, comment t'appelles ça, ce agent génétique.
La substance noire, hein, c'est.
Qui contamine, en fait, les corps et qui les transforme en aliens. Ouais. Notamment sous forme de sport. Tout ça, c'est résumé d'ailleurs dans le livre de base d'Alien. J'ai trouvé qu'il y avait une logique vraiment. Parce que des fois, tu dis, mais je comprends pas trop, lui, oui, prend un œuf et tout, il a besoin d'un corps. Et
si tu te bases sur Prometheus ou Covenant, tu comprends pas forcément. Le jeu de rôle explique beaucoup.
Ouais,
alors après, la question,
ouais,
c'est est-ce qu'il
le
est canonique,
cycle de vie de l'Alien.
Plus
ça, en tout cas, mais Andrew Gasca, sur son site, dit pour moi, ça, c'est canon. Voilà.
Et ça marche très, très bien, effectivement.
Et donc, il y a eu ensuite un épisode, une boîte, vraiment, où on incarne des marines qui doivent partir d'une colonie qui est en train d'être prise par l'UPP, parce que, les mineurs, au bout d'un moment, ils se rebellent. Il y a des aliens, il y a aussi un bombardement de ce liquide noir.
Dont on ne sait pas qui, d'ailleurs.
Voilà, ouais. On suppose
et
peut-être
on le saura
que
pas,
ouais, voilà ça. Et puis le troisième que j'ai pas fait, qui s'appelle Heart of Darkness, et donc qui nous emmène, nous on est plutôt des biologistes, on doit aller dans une station où la Weyland-Yutani fait des expériences, et cette station est à côté d'un trou noir en plus. Et alors j'ai vu Romulus après et je me suis dit, quand même, des fois finalement, est-ce que c'est pas le jeu de rôle qui réinfluencerait le cinéma? Et donc, nouvelle version du jeu avec une mise en page très différente. Parce que c'est le truc, quand c'est arrivé, quand ce gros livre de 300, 400 pages est arrivé, tout le monde s'est dit « Ah ouais, c'est super joli, mais en fait, c'est écrit blanc sur noir, c'est très sombre et tout. » Et donc voilà, ils ont complètement refait la mise en page. Ils changent un petit peu les règles, apparemment.
Et j'ai changé les lunettes à cause de ça, d'ailleurs. Ouais, effectivement. Et ils vont faire aussi sortir des figurines.
Des figurines, ouais.
Donc ça peut être super sympa, il faut voir ce que ça donne. Alors, ça sera en anglais pendant un certain temps.
Arcane Asylum, en général, traduit les trucs, ils mettent 2 ans, quoi.
Ouais,
c'est-à-dire
ouais,
entre ce qui
au
sort.
Mieux, ouais. Au mieux, fin 2026, début 2027, au mieux.
Ok. On s'écoute un extrait de la BO d'Aliens, justement.
Ah, yes.
Par James Horner.
Thank you.
retour dans l'imaginaire sur le 100.5, on va parler de la série télé à venir maintenant.
Eh bien oui, Alien Earth qui est prévu, là on connaît la date, c'est le 12 août aux États-Unis sur la plateforme Hulu et le 13 dans le reste du monde, en tout cas en Europe sur Disney+. Ça sera en 8 épisodes, en tout cas première ou une saison, pour l'instant on ne sait pas s'il y en aura d'autres, en 8 épisodes. Le premier jour il y aura 2 épisodes et puis ensuite ça sera un épisode par semaine, donc on aura le final le 24 septembre sans doute. Cette série elle a été créée par Noah Hawley qui est un écrivain d'abord de polar et qu'on connaît. Enfin, moi je le connais pas en tant qu'écrivain, je le connais en tant que réalisateur de série puisqu'il a fait une grosse partie de la série Fargo qui a été vraiment une série qui a été adorée dans laquelle on retrouvait Martin Freeman, Kristen Dunst, etc. Plein de gens très très intéressants. Et c'était le scénariste a priori du pilote de Légion de Marvel.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Voilà. Donc il y a eu des trailers qui sont sortis, dont un il y a 4 jours, donc c'est tout
frais. Qui montre beaucoup de choses.
Ouais, on a beaucoup de choses, mais en résumé de ce qu'on en sait, ça se passe en 2120, c'est 2 ans avant Alien, le 8e passager. Il y a un mystérieux vaisseau spatial qui s'écrase sur Terre et il y a une équipe constituée d'une femme et d'un groupe hétéroclite. On comprend que elle, c'est une femme qui est synthétique, mais qui a une conscience humaine qui lui a été injectée. Donc c'est nouveau, c'est un nouveau concept qui vient. Et ils vont arriver dans ce vaisseau. Et dans ce vaisseau, il y a 5 formes de vie extraterrestres qui ont été collectées quelque part automatiquement partout. Et là, on découvre qu'il y a aussi de nouvelles compagnies. Il n'y a pas que la Weyland-Yutani. Là, on va être face à Prodigy, dont le directeur veut absolument récupérer ce qu'il y a dans ce vaisseau. Et ce vaisseau, c'est peut-être la Weyland-Yutani.
Dans le jeu de rôle, il y a pas mal de compagnies aussi qui sont décrites. On travaille notamment des fois pour Sixon. Donc on peut même être un agent de la Sixon infiltré dans la Weyland-Yutani.
Ouais, alors a priori, il y aurait aussi, alors je sais pas si c'est un hommage, il y aurait une des entreprises qui s'appellerait Lynch. Alors, est-ce que c'est
oui, effectivement, j'y ai pensé, mais si, ouais, est-ce que pour David Lynch, effectivement. alors on a un petit peu le casting, c'est Sydney Chandler qui joue Wendy. Moi, je connaissais pas. Je sais pas si vous avez des news. C'est une jeune femme.
Juste que c'est la fille de Kyle Chandler qui jouait dans Super 8 et puis dans des séries comme Demain à la Une. Des choses comme ça.
Ah oui.
Et puis donc du coup, il y a Timothy Elephant. Je sais pas si vous l'aurez reconnu dans la bande annonce parce qu'il a les cheveux blancs peroxydés. Ce serait lui-même aussi un synthétique, d'après ce que j'ai compris.
Aura un rôle un peu secondaire. Il y a Alex Lauver qui fera partie de l'équipe de Wendy, en fait. Alors lui, on l'a vu dans The Faking End of the World. C'est quelqu'un qui est une tête d'adolescent. Vous savez, c'est une série qui, je crois que c'était sur Netflix en 2 saisons, où c'est un psychopathe qui va absolument tuer quelqu'un. Puis finalement, peut-être qu'il va tomber amoureux de sa proie. On voit aussi dans le trailer, on voit Samuel Blenklin qui joue le personnage de Boy Cavalier. C'est le jeune PDG de la Prodigy Corporation. Il a l'air très très inquiétant. Alors lui, je le connais pas du tout, mais il est connu des Anglais. Alors c'est un casting très très anglophone, mais très peu d'Américains à part Sydney Chandler. Il a joué dans Corpus Malfoy dans la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit.
Ah oui. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que du coup, ça va peut-être pas forcément que s'attarder sur les xénomorphes. On va avoir peut-être un peu plus d'exploration sur les androïdes, les synthétiques. Et l'hybridation humain-androïde, et puis éventuellement d'autres créatures, parce qu'a priori, le xénomorphe, comme tu le disais, Romuald, ce ne serait pas forcément la seule créature.
Alors, je ne sais pas si tu as regardé le trailer en détail, mais on voit quand même du xénomorphe, l'alien qu'on a envie de voir, qui bave de l'acide, mais on voit une sorte de créature qui ressemble à une méduse volante, qui a l'air d'être assez incroyable. En tout cas, dans le trailer, ils le disent, ce ne sont que des prédateurs.
Ouais, alors après, n'oublions pas que l'agent contaminant génétique, là, il est censé fusionner avec toute forme de vie existante et lui donner un côté un peu alien à la fin, un peu dans une forme de déterminisme pour aller vers le prédateur le mieux gaulé. Mais je crois que dans Alien 3, il y a déjà un mélange d'aliens et de chiens ou de vaches, non? Il n'y avait
pense. Ah oui, par rapport à la Director's Cut, effectivement, dans la version cinéma, le xénomorphe sort d'un Rottweiler, d'un chien. Mais dans la version Director's Cut, il sort du cadavre d'une vache.
D'accord.
Alors, voilà. Ouais.
Et puis ils ont pas les mêmes capacités.
Ils ont des traits qui prennent pour rire à 4 ces espèces-là.
Ouais, c'est ça.
Ah mais il y a plein de déclinaisons des aliens. Donc c'est très mystérieux, mais on a quand même pas mal d'éléments et c'est vrai que ça va sûrement étendre énormément l'univers. Et on est assez impatient de voir ça.
Donc
et
9 épisodes, hein, c'est ça?
Alors 8 épisodes, okay. En 7 semaines de temps.
Tu penses, Romuald, toi qui as vu le film Romulus, il y aura un Romulus 2 donc, qui va sortir.
Oui,
la il y aura des connexions entre le film et la série?
Aucune idée, mais moi ça me donne l'impression que Disney va essayer de faire quelque chose de très canonique, de dire bon voilà, on va officialiser une certaine ligne chronologique qui est déjà assez en place, hein, avec les films, hein, ou même le jeu vidéo où on joue la fille de
Ripley. Alien Isolation.
On
va peut-être finir par la vidéo d'ailleurs.
Donc j'en sais pas plus, mais c'est vrai que ça va être super intéressant. Enfin, en tout cas, c'est alléchant et ça sort dans un mois et demi.
Ok, bah moi je voulais juste mentionner un peu de lecture aussi, parce qu'on a parlé des comics, mais je crois qu'il y a eu autant de romans qui sont sortis, et des fois d'ailleurs les comics sont des adaptations de ces romans. Il y a eu les novélisations qui avaient pas mal marché, des 4 films, et Brajlon avait ressorti un beau bouquin qui regroupait les 4, avec des photos inédites aussi de tournage, des croquis de Geiger au milieu. Bon, j'ai regardé...
Geiger,
excusez-moi. Giger. Mais bon, c'est un peu comme tout le reste, on ne trouve plus trop en neuf. Et puis, je voulais aussi mentionner, moi, les adaptations sonores faites par Audible. Qui a fait un super travail, dont un qui reprenait vraiment la suite. Bah, en fait, non, ils ont fait aussi le Alien 3 de Gibson. Et dans la VO que vous pouvez trouver, le premier truc est toujours gratuit chez Audible, c'est Lance Erickson qui reprend son personnage et qui fait sa voix. Le personnage qui faisait Hicks aussi, je crois, reprend sa voix. Et dans la version française, vous avez la VF de Sigourney Weaver aussi, si vous voulez. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Il y a plein de bruitages et tout. Et d'ailleurs, quand on est maître du jeu pour jouer au jeu de rôle Alien, il y a plein de choses à prendre, notamment tous les sons qui sont vraiment cool.
Combien ça coûte un livre audio comme ça? Pas plus cher qu'un livre?
Ouais, c'est à peu près dans les mêmes prix, je crois.
Ouais, c'est dans les mêmes prix.
Bon, et ben, on rend l'antenne dans 30 secondes. Sébastien, t'avais un truc à annoncer, toi?
Déjà, on a comme
le grand bal des légendes au château. Ouais.
C'est bien. Là, on aura aussi Jonathan Green qui est en interview sur Rollistes TV le 18 juin, le mercredi. Donc, vous pouvez lui poser des questions en direct à partir de 20h ou 21h.
Et puis, c'est la conférence de presse de Cultissime mardi prochain. On y sera et on vous en parlera dans la prochaine émission.
Ouais.
Merci Jean-Christophe.
Merci
Jean-Christophe.
Merci beaucoup. Et tu vas nous parler Predator.
Merci. Ouais, on fera une prochaine pour Predator. Ouais. Salut.
Salut.
Au revoir.
www.radio-g.fr